RFI minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Afrique Soir avec Arthur Ponchelet, bonsoir.
Bonsoir Christophe et bonsoir à vous qui nous écoutez. À la une ce soir, fumée noire au-dessus de la chapelle Sixtine du Vatican. Les 133 cardinaux réunis en conclave ne se sont pas mis d'accord sur un nom. On est à Rome dans ce journal. Il est venu plaider pour un dialogue international inclusif. Denis Mukwege était tout à l'heure au Parlement européen à Strasbourg. Il a évoqué la guerre dans l'est de la RDC et appelé l'Europe à s'impliquer dans les négociations. Dans ce journal aussi, la transition au Mali suspend les activités politiques. L'ancien gouverneur de la Banque centrale de Guinée, condamné à 5 ans de prison ferme. Et puis à un mois de la Tabaski, le gouvernement sénégalais lance un arsenal de mesures pour lutter contre le vol de moutons. On est en Éthiopie dans la deuxième partie d'Afrique Soir. Afrique Économie s'intéresse à la hausse des cours du café et puis de la musique. On écoute une compilation 100% zimbabwéenne qui sent bon les années 80. Mais d'abord du foot, vous l'avez peut-être vécu tout à l'heure sur RFI, le Paris Saint-Germain, la fesse à passe pour le club français, direction la finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont battu Arsenal 2-1 tout à l'heure, même s'ils ont tremblé en début de match. Bonsoir Sofiane Amazian.
Bonsoir Arthur, bonsoir à tous.
Une sérénité impressionnante qui détonne avec le passé compliqué du club dans la compétition.
Oui, plié sans rompre, l'une des spécialités de ce nouveau Paris Saint-Germain. Malgré l'avance d'un but, les Parisiens subissent énormément en début de match, étouffés par le pressing adverse. Les Gunners sont les crocs et tentent leur chance de près, de loin, en vain. En face, le portier italien Gianluigi Donnarumma est sur la lignée de ces derniers mois. Deux arrêts décisifs pour laisser ses coéquipiers dans le match. Puis comme souvent, Paris répond fort par Fabian Ruiz qui ouvre le score d'une magnifique reprise de volée. Le PSG version 2025 est adaptable, exploitant chaque faille de son adversaire. Ce mercredi soir, au Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique piquent en contre à l'image de ce but du break signé du Marocain Achraf Hakimi, l'habituel latéral droit transformé en ailier gauche sur l'action. La réduction du score de Bukayo Saka ne gêne finalement pas des Parisiens calmes et sereins. Les traumatismes de Barcelone en 2017 contre Manchester United 2 ans plus tard sont derrière eux, devant la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan à Munich pour un premier sac. Les Parisiens y étaient presque en 2020 dans un contexte un peu particulier. La seconde chance dans 3 semaines pour marquer l'histoire.
Sofiane Amazian, rendez-vous donc à Munich le 31 mai pour la finale de la Ligue des Champions. On le vivra ensemble évidemment sur RFI. Les 133 cardinaux réunis en conclave à Rome sont partis se coucher. Il n'y aura pas de pape ce soir. On a aperçu tout à l'heure la fumée noire crachée par la fumée de la chapelle Sixtine. Ils étaient nombreux à l'attendre, place Saint-Pierre, les yeux rivés sur le toit de la chapelle. Parmi eux, Guillaume Semugicha, ce Burundais étudiant en théologie à Rome, compte bien revenir à chaque scrutin sur la place Saint-Pierre jusqu'à apercevoir la fameuse fumée blanche.
Oui, justement, on est venu pour le conclave et pour voir un nouveau pape. Mais on l'a pas eu, c'est le fumée est noir, on n'a pas eu, on attend qu'on l'aura. Oui, on attend que les cardinaux qui sont là-bas, qu'ils nous donnent un nouveau pape, on en a besoin. L'église, c'est l'église de Jésus, c'est pas l'église des cardinaux. Donc, on va avoir la patience.
Et vous allez revenir sur la place?
Évidemment, je serai ici, à 9h. Si on ne donnait pas le pape, après-midi, je retourne. J'aurais besoin aussi de la bénédiction du pape. Je suis burundais et ce que j'aimerais pour l'église catholique pour demain, c'est justement une église qui œuvre pour la paix en Afrique et la paix au Congo, la réconciliation de nos peuples. Et puis l'église qui peut unifier le monde occident et le monde du sud, mais aussi la paix en Ukraine, la paix au Moyen-Orient. On a besoin justement d'une église qui va œuvrer sur ça.
D'une voix, une voix forte donc.
Une voix forte pour la paix et la réconciliation dans le monde.
Témoignage recueilli par notre envoyé spécial à Rome, Véronique Guémard. 1,4 milliard de catholiques attendent donc le nom de leur nouveau chef. On l'a entendu, les fidèles africains suivent particulièrement ce conclave. Ils sont 280 millions, soit un catholique sur 5. L'église est particulièrement dynamique sur le continent, même si depuis plusieurs années, de nombreux fidèles sont attirés par les églises dites du réveil ou de la prospérité, parfois critiquées, qualifiées de fondamentalistes. nationalistes, voire de sectaires. Mais pour le théologien et anthropologue des religions Pierre Diarra, il est plus intéressant d'y voir une source de réflexion pour l'Église catholique.
Essayons de voir pourquoi est-ce que nos chrétiens des églises classiques, si je peux m'exprimer ainsi, vont dans ces communautés et dans ces églises. Est-ce que ce ne veut pas signifier qu'il y a un manque peut-être de fraternité ou de solidarité vraie dans nos églises classiques et qu'ils vont chercher dans ces églises donc une certaine mise en pratique qui se contente pas simplement de mots et de prières, mais qui va aider celui qui est dans le besoin, celui qui n'a pas les moyens pour se soigner. Donc la communauté va voir comment est-ce que on peut s'organiser pour aider cette personne à se soigner. Des choses très concrètes que les Africains attendent, au lieu de regarder en disant « Ah, nos fidèles vont dans ces églises », essayons de voir qu'est-ce qu'ils vont chercher et comment est-ce que nos églises classiques pourraient s'interroger et peut-être améliorer leur manière d'accueillir la parole de Dieu et de la mettre réellement en pratique dans le contexte africain.
Le théologien et anthropologue des religions Pierre Diarra, rendez-vous donc demain pour la suite du conclave. Il y aura deux votes, un deux votes le matin, deux autres le soir. On suivra tout ça avec nos envoyés spéciaux à Rome. 22h36 en temps universel. La présidence française ne l'avait pas annoncé, mais Paul Kagame était à Paris ce matin. Il s'est entretenu avec Emmanuel Macron. Le président rwandais a notamment évoqué la coopération entre Kigali et Paris, mais il a aussi été question de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre au cœur aussi d'une prise de parole du docteur Denis Mukwege. Aujourd'hui, le prix Nobel de la paix était à Strasbourg, au Parlement européen. Jean-Jacques Herry, il a à nouveau défendu l'idée de négociation internationale pour parvenir à une solution rapide.
Denis Mukwege commence par rappeler les chiffres terrifiants d'un conflit aux 6 millions de morts, une guerre négligée et oubliée par le monde occidental, selon lui.
Il y a 26 millions de Congolais qui vivent dans l'insécurité alimentaire totale. Et 7 millions,8 de déplacés internes, une femme violée toutes les 4 minutes.
Le médecin évoque également les dernières négociations entre le Rwanda et la RDC et l'accord de principe signé fin avril à Washington sous l'égide des États-Unis et qui pourrait déboucher sur un accord de paix. Les négociations prévoient un cessez-le-feu immédiat, une aide au retour des réfugiés, mais aussi une partie économique beaucoup trop opaque, selon Denis Mukwege, dans laquelle on retrouve, comme toujours, les très convoités minerais congolais, comme le cobalt ou le tantal. Une cogestion des ressources naturelles et minières par les deux pays est prévue.
C'est une graine de conflit qu'on est en train de planter. Vous ne pouvez pas demander à deux États qui sont en conflit, avec des millions de morts, sans parler de la justice, juste demander à ce qu'il y ait une cogestion des ressources naturelles, c'est tout simplement inconcevable.
Le gynécologue lui plaide pour une discussion internationale inclusive. Il appelle l'Union européenne à s'impliquer dans les négociations, alors même que les États-Unis de Donald Trump pousseraient de leur côté pour un accord permettant à leurs entreprises d'accéder plus facilement aux matières premières congolaises. Jean-Jacques Herry, Strasbourg, RFI.
Et pendant ce temps, sur le terrain dans l'est de la RDC, les affrontements se multiplient sur plusieurs fronts, dans le territoire de Mwenga au sud Kivu, mais aussi dans ceux d'Ouvira et de Walungu. Tous les détails à lire sur RFI.fr. Les combats se poursuivent aussi au Soudan. Pour le quatrième jour consécutif, une attaque de drones a visé Port-Soudan. Cette fois, c'est la base navale qui a été touchée. Des frappes une nouvelle fois attribuées aux paramilitaires des forces de soutien rapide et qui inquiètent l'ONU. Le responsable des secours des Nations Unies redoute de voir s'aggraver les souffrances dans ce qui est déjà la plus grande crise humanitaire au monde. Face à la contestation, la transition malienne suspend les activités politiques. Le général Assimi Goïta, président de transition, évoque des raisons d'ordre public pour suspendre les activités des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. C'est par un communiqué lu sur la télévision d'État, après le Conseil des ministres, qu'on l'a appris cet après-midi. Les associations et toutes organisations à caractère politique sont aussi concernées. David Bachet, cela intervient alors qu'un rassemblement contre la transition était prévu vendredi. Mais les leaders de la contestation, joint par RFI, ne compte pas s'arrêter là.
Les partis politiques s'y attendaient, c'est désormais chose faite. Moins d'une semaine après le début d'un mouvement de contestation inédit, cette suspension des activités politiques correspond à une interdiction de fait du rassemblement prévu vendredi. Les partis politiques appelaient les Maliens à s'opposer au projet de dissolution des partis et plus généralement au maintien des militaires au pouvoir depuis 5 ans sans élection, au non-respect de la Constitution ou encore aux taxes injustes et aux coupures de courant. Sollicité par RFI, la commission d'organisation du rassemblement explique vouloir soumettre à la justice cette mesure de suspension pour son annulation immédiate en procédure d'urgence. Une démarche qui semble avoir peu de chances d'aboutir, a fortiori d'ici vendredi. Les organisateurs avaient déjà confié à RFI qu'en cas d'interdiction, ce rassemblement serait annulé pour ne pas tomber dans le piège de la violence et promettaient des plans B et C avec la perspective d'étendre le mouvement à l'intérieur du pays et de rallier d'autres acteurs. Mais au-delà de l'événement de vendredi, c'est désormais la moindre réunion de toute organisation à caractère politique qui est désormais interdite. En attendant une décision collective, un important chef de parti réagit à chaud. C'était prévisible, il ne nous laisse plus d'autre choix que d'avancer.
David Bachet, l'actualité en Côte d'Ivoire. On a appris aujourd'hui le décès du professeur Philippe Copli-Boni, figure du PDCI. Il avait 93 ans, c'était le plus vieux vice-président du parti. Il a notamment longtemps été le maire de Boisflay jusqu'en 2000, le 2 août 2000. 2023. Il a assuré l'intérim après le décès d'Henri Conan Bédier jusqu'en décembre de la même année, au moment de l'élection de Tidjane Thiam à la tête du parti. Ce dernier salue une carrière politique longue et exemplaire. La Côte d'Ivoire, c'est aussi la remise en liberté provisoire d'un enseignant syndicaliste. Décision cet après-midi de la Cour d'appel d'Abidjan. Il avait été condamné le mois dernier à 2 ans de prison ferme pour coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement du service public. Le tout en pleine grève dans les écoles. Le procès a été renvoyé au 11 juin prochain. Lui a été condamné aujourd'hui. L'ancien gouverneur de la Banque centrale de Guinée, Ibrahim Cherifba, était poursuivi entre autres pour détournement de deniers publics, corruption et blanchiment de capitaux. Frédéric Gara, il a été condamné aujourd'hui par la CRIEF à une lourde amende, mais aussi à 50 prisons fermes.
Au terme de 5 mois d'audience, la CRIEF, la Cour guinéenne de répression des infractions économiques et financières, a eu la main lourde. 5 ans de prison ferme, une amende de 5 milliards de francs guinéens, soit 500 000 euros, et la confiscation des biens d'Ibrahima Cherifba. Il faut dire que depuis le début des audiences en décembre dernier, l'ex-patron de la Banque centrale, également ancien vice-président du parti UFDG, devait répondre des accusations de détournement de deniers publics, de corruption, d'enrichissement illicite, d'abus de confiance et de blanchiment de capitaux, le tout portant sur un préjudice estimé pour l'État guinéen à 10,5 millions de dollars. Ibrahima Cherifba a été jugé et condamné par contumace, l'ex-patron de la Banque centrale étant en effet en exil depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya au pouvoir. À l'issue de ce procès, un mandat d'arrêt a été délivré contre lui par la justice guinéenne.
Frédéric Gara, l'actualité judiciaire sur le continent. Ce sont aussi ces 2 mandats d'arrêt internationaux émis par l'Algérie. Ils visent le franco-algérien Kamel Daoud. On ne sait pas ce qui est reproché à l'écrivain, mais les motifs seraient politiques et liés à son dernier roman Ouris. C'est en tout cas ce que dit son avocate. Pris Goncourt en France, mais interdit en Algérie, le livre évoque les massacres de la décennie noire. Amélie Beaucourt, l'écrivain, dénonce une campagne orchestrée selon lui par le régime algérien.
Un premier mandat d'arrêt aurait été émis en mars et un second début mai à l'encontre de l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud. Contactée par téléphone, son avocate indique qu'elle n'a aucune précision sur les motivations de ces mandats. Mais selon elle, ils visent à réduire au silence un écrivain dont le dernier roman, Ouris, a été interdit en Algérie puisqu'il porte sur la décennie noire et ses massacres. Ce livre, prix Goncourt 2024 en France, lui vaut d'autres démêlés avec la justice. Une jeune femme survivante d'atrocités commises pendant la guerre civile accuse Kamel Daoud de lui avoir volé son histoire pour nourrir celle de son héroïne. Elle a entamé des poursuites en Algérie pour violation du secret médical, le témoignage de la jeune femme ayant été recueilli par une psychiatre qui se trouve être la femme de l'écrivain. Une plainte a également été déposée en France à l'encontre l'encontre de l'auteur et de son éditeur Gallimard pour atteinte à la vie privée et diffamation. Une première audience pour fixer le calendrier des échanges entre les parties a lieu ce mercredi. Première étape avant un potentiel procès civil dans quelques mois.
Et c'est dans ce contexte de relations franco-algériennes particulièrement tendues, aussi avec le cas de l'écrivain Boualem Sansal, qu'une délégation parlementaire française est attendue demain en Algérie. Une trentaine d'élus au total vont commémorer le 80e anniversaire des massacres de Sétif, Guelma et Kerata, où des manifestations indépendantistes furent réprimées dans le sang par les forces coloniales, faisant des milliers de morts. Aurélien de Vernois.
C'est l'autre 8 mai, celui du début du soulèvement indépendantiste algérien, en parallèle aux célébrations de la victoire des Alliés. L'amorce de deux décennies sanglantes, puis d'une relation difficile, forcément, entre l'Algérie et la France. Relation toujours épidermique aujourd'hui, mais qu'il ne faut pas laisser péricliter, selon la députée écologiste Sabrina Sebaï, membre de la délégation française.
C'est important, lors de cette date symbolique, d'avoir une délégation française qui soit présente, pour montrer aussi qu'en France, il n'y a pas que des ennemis de l'Algérie, comme on a pu le voir ces derniers mois avec tous les débats houleux auxquels on a assisté, et d'envoyer un message aussi de dire qu'il y avait tout un travail de fond qui se faisait sur les questions mémorielles, pour la réconciliation.
Mais pour le patron des députés, les Républicains, Laurent Wauquiez, ce déplacement n'est ni plus ni moins qu'une provocation.
Le jour de 8 mai, qui est un jour de fierté nationale, vous avez des élus français qui vont se rendre en Algérie pour se livrer à une séance d'autoflagellation et d'humiliation.
Entre les faucons et les colombes, nombreux sont les élus français à plaider pour davantage d'équilibre, comme le député MoDem Richard Ramos.
Oui, si c'est pour fabriquer la paix. Non, si c'est pour, encore une fois, attiser des plaies qui ne servent à rien.
Mais aujourd'hui, tout est bloqué, admet le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui doit lui-même combattre les partisans d'une ligne dure au sein du gouvernement. L'air glaciaire entre Paris et Alger n'est donc pas encore prête à s'estomper.
Aurélien de Vernois et ce 80e anniversaire du massacre de Sétif. On y consacre le dossier d'Afrique Matin. Demain, rendez-vous dans le journal de 6h30, temps universel.
Dakar, 92 FM.
Comment lutter contre le vol de bétail? La question intéresse les autorités au Sénégal. Un conseil interministériel s'y intéresse et a annoncé une batterie de mesures, notamment pour faciliter l'approvisionnement du pays en moutons. Juliette Dubois, le gouvernement se prépare car la tabasquie approche à grands pas.
Pour la tabasquie, les besoins sont estimés à plus de 800 000 moutons. Près de 580 000 viendront de l'élevage local et environ 250 000 seront importés, notamment du Mali et de la Mauritanie. Pour faciliter leur arrivée, le gouvernement a décidé de supprimer les droits et taxes à l'importation. Sur le plan sécuritaire, les ministères de l'Intérieur et des Forces armées seront mobilisés. Ils assureront la protection des convoyeurs, des axes routiers et des points de vente. Des patrouilles mixtes seront déployées et un système de renseignement communautaire mis en place pour réagir rapidement en cas de vol ou d'abattage clandestin. Le vol de bétail représente une perte de 2 milliards de francs CFA chaque année, selon la FAO. Pour lutter durablement contre ce fléau, un système national d'identification du cheptel est en préparation. Il devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Et puis à Dakar, le stade Léopold Sédar Senghor, habituellement utilisé comme point de vente, est en travaux. Les autorités prévoient donc de créer un grand parc à bétail à Diamniadio, en banlieue de Dakar. Tous les points de vente seront aussi équipés d'éclairage pour renforcer la sécurité. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Au Kenya, c'est contre le vol de fourmis que les autorités tentent de lutter avec ces condamnations. Aujourd'hui, plus de 7000 dollars d'amende ou un an de prison contre 4 personnes. Tout avait tenté d'exporter des milliers de fourmis vivantes, 5000 messors céphalotes, une espèce très prisée des collectionneurs. Toute possession ou exportation d'espèces sauvages sans permis est illégale au Kenya. On termine ce journal au cinéma. On s'installe dans les fauteuils rouges du Nollywood Week. La 12e édition du Festival des films du Nigeria démarre ce soir à Paris. L'actrice et réalisatrice Aïssa Maïga en est l'ambassadrice. Objectif de ce rendez-vous, Ouda Ibrahim, montrer l'industrie du Nollywood, la plus grosse d'Afrique.
Le modèle nollywoodien consiste à produire des films avec peu de moyens financiers, se basant surtout sur la force de l'histoire. Il s'agit de produire des films davantage tournés vers le public, un cinéma plus populaire. L'industrie de Nollywood au Nigeria est devenue, en effet, la locomotive d'un nouveau cinéma en Afrique. Des réalisateurs de 8 autres nationalités participent à cette 12e édition de Nollywood Week pour faire dialoguer les cultures africaines et afin, affirme les organisateurs, de mettre en avant un cinéma afrodescendant le plus riche et le plus diversifié possible. Serge Noukouné, cofondateur et directeur exécutif du festival, revient sur les thématiques des films choisis.
On met en avant vraiment l'originalité des histoires, la puissance des récits et la manière dont on fait transparaître tout ça, c'est avec une sélection de films qui sont pris pour leur originalité et pour leur diversité. Donc on a toutes sortes de genres, du film d'horreur à la comédie romantique en passant par le drame, les films d'action, etc. Ce qui est assez rare en général avec les films africains qui sont très souvent un petit peu plus monolithiques et qui sont axés sur des thématiques uniquement sociales.
La sélection révèle également plusieurs portraits de femmes fortes qui luttent et qui se révoltent contre le pouvoir de l'homme et le poids des traditions.
Il est 22h49 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI. Arthur Ponchelet.
Dans le reste de l'actualité internationale, fumée noire au Vatican, il n'y aura pas de pape ce soir. Les cardinaux ne se sont pas mis d'accord sur un nom au terme du premier tour, on s'y attendait. Rendez-vous demain pour la suite du conclave à Rome, deux scrutins le matin et deux autres le soir. On suivra tout ça avec nos envoyés spéciaux. L'actualité du monde, ce sont aussi ces échanges de tirs la nuit dernière entre l'Inde et le Pakistan. 31 morts côté pakistanais et 12 côté indien. C'est la plus grave confrontation militaire des deux voisins depuis 20 ans. Ce soir, Donald Trump s'est exprimé. « Je veux qu'ils arrêtent », dit le président américain. La trêve de 3 jours entre l'Ukraine et la Russie est entrée en vigueur. C'est Vladimir Poutine qui a décidé de cette pause dans les combats pour les commémorations du 8 mai. Mais elle n'a jamais été acceptée par l'Ukraine qui fustige un coup de communication. Des frappes israéliennes à Gaza aussi ce mercredi. Elles ont fait 60 morts d'après les secours et interviennent alors que l'État hébreu a présenté lundi un plan de conquête de l'enclave palestinienne. Et puis du foot et le PSG qui s'est qualifié tout à l'heure pour la finale de la Ligue des Champions 2-1 contre Arsenal. Les Parisiens affronteront donc l'Inter Milan en finale à Munich le 31 mai prochain. Petit grain, mais gros bénéfice, le cours mondial du café a explosé ces derniers mois. La faute, entre autres, à l'incertitude sur la production du géant du secteur, le Brésil. Il y a tout de même des pays qui se frottent les mains. L'Éthiopie, par exemple, en 9 mois, Addis Abeba a exporté pour 1,5 milliard de dollars de café du jamais vu dans le pays. Mais ces résultats mettent à rude épreuve les gérants de coffee shop dans un pays où le café est une institution. Reportage Afrique Économie. Marlène Panara.
Il est 10h et comme tous les matins, Meskil, tablier mauve autour de la taille, ouvre les portes de son local et allume la radio. Le café est prêt à accueillir les clients.
Mon café s'appelle Nabek Coffee Shop. Cela fait un peu plus de 2 mois maintenant que je l'ai ouvert.
Dans son nouveau métier, cette ex-hôtesse d'accueil doit constamment s'adapter à la fluctuation des prix du café qu'elle se procure dans la région de Jima et dans un marché d'Addis Abeba.
Depuis cette année, les prix du café grimpent et descendent tout le temps, mais il y a 2 ou 3 mois, ils ont vraiment beaucoup augmenté. À Jima, le kilo coûte 650 birres. À Addis Abeba, au Chola Market, c'est entre 900 et 1000 birres. Avant, cela coûtait entre 600 et 700 birres à Addis et à Jima, 450 birres.
La hausse des prix de l'arabica, variété reine en Éthiopie, explique en partie cette augmentation. Le 25 novembre 2024, son prix de référence est monté à plus de 6,5 dollars le kilo, son plus haut niveau depuis 1997. Kirou Belsioum, chef des opérations au sein de la marque emblématique de café Tomoka, lie cette hausse à une pénurie globale de café.
Il y a des problèmes de production interne, à l'échelle mondiale aussi.
À cause des sécheresses qui ont touché le Brésil et le Vietnam, premiers producteurs mondiaux, la demande a dépassé l'offre. En Éthiopie, la dévaluation du birr appliquée fin juillet 2024 pour répondre aux exigences du FMI a également fait grimper les prix. Cette situation affecte autant les petits commerçants comme Meskil que les gros revendeurs comme Tomoka.
Cette année, c'est du jamais vu dans notre histoire. Le kilo, c'était à 300 jusqu'à 500 birres le kilo. Et maintenant, ça a triplé.
Pour encaisser les chocs, l'entreprise n'a d'autre choix que d'augmenter le prix de la tasse.
On a essayé d'absorber ces coûts, mais on était forcé de réviser. Au début de l'année, c'était à 85 birres. Actuellement, là, c'est à 125.
Au Nabek Coffee Shop aussi, le prix de la tasse a augmenté, comme le détaille Zola, client quotidien de Meskil.
Aujourd'hui, c'est devenu très cher. La tasse est à 30 birres en Éthiopie.
L'augmentation des prix du café est très mal accueillie en Éthiopie, car dans ce pays, le café fait partie intégrante du quotidien, explique Zola.
Je suis accro au café et à la cérémonie du café. C'est un pan important de la culture et de la vie sociale.
L'Éthiopie est le premier producteur de café en Afrique et la moitié de ses récoltes est consommée localement. Marlène Panara, Addis Abeba, RFI.
Reportage d'Afrique Économie à consommer sans modération sur RFI.fr. Bientôt 23h en temps universel. Avant de retrouver Gali Bonin pour le journal, on se quitte en musique. C'est la chronique culture de Pierre Vallée avec ce soir la sortie de la compilation Roots Rocking Zimbabwe, excusez l'accent, un disque qui rassemble une série de morceaux des années 70 et 80, période particulièrement riche pour les musiciens zimbabwéens.
Commence en 1972 lorsque The Rhodesia Herald, un des plus grands tirages du pays, consacre un article en première page au guitariste Manu Kambani. Ses prestations sont tellement électriques et captivantes qu'il est comparé à Jimi Hendrix. À une époque où les Blancs contrôlent absolument tout en Rhodésie, l'événement est loin d'être anecdotique et il aura pour vertu d'inspirer les jeunes à se lancer dans la musique. Une vague de groupes déferle alors sur la capitale, que l'on appelle encore Salisbury, mêlant joyeusement le rock, la rumba, le bakanga sud-africain et la soul avec les rythmes locaux. Alerté par cette effervescence, le label sud-africain Gallo Records signe des contrats pour plusieurs groupes, mais disons-le clairement, le succès n'est pas au rendez-vous. Un autre label sud-africain, The Teal Record Company, se penche sur la question et envoie Crispin Matema, un batteur, qui sillonne la Rhodésie au volant de sa 504 Peugeot, à la recherche de nouveaux talents et signe quelques groupes comme The Baked Beans, The Acid Band ou Gypsy Caravan. Loin d'abandonner la course, Gallo Records envoie à son tour un musicien en mission découverte, le saxophoniste Weston Cozy. Et c'est lui qui décrochera la timbale avec The Green Arrows, un groupe dont le titre Shipo Shiroroa se vendra à plus de 25 000 exemplaires, devenant ainsi le premier disque d'or du pays. Au milieu des années 70, le succès est là désormais et la foule se presse au concert. Ce qui, en pleine guerre civile, ne plaît pas trop aux autorités et à la police qui arrêtent et emprisonnent les musiciens, même les plus populaires. Mais loin de les dissuader, la répression au contraire galvanise le public et les artistes. Elle renforce leur détermination à obtenir leur liberté et l'indépendance du Zimbabwe. En 1980, le Zimbabwe obtient son indépendance. Les musiciens qui avaient pris d'énormes risques en se faisant les porte-parole du peuple face à l'ordre colonial sont élevés au rang de héros nationaux. La compilation Roots Rocking Zimbabwe rend hommage à ces valeureux musiciens et retrace cette période fertile et passionnante de la musique zimbabwéenne.
Oliver and the Black Spirit, c'est leur titre, Anochere Keta, pour refermer cette dernière édition d'Afrique Soir. Merci à Jonathan Brady, Alexis Guilleux et Simon Builbaudin aux manettes d'Afrique Soir. Merci à vous, surtout de votre fidélité à la Radio du Monde. L'actualité africaine revient demain, Afrique Matin, 3h30, temps universel. D'ici là, restez bien avec nous dans 30 secondes, un nouveau journal sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
prendre soin de sa santé quand on est en situation de handicap.
Vendredi,
émission Questions de femmes, l'absence de désir d'enfant.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.